Alors, le livre, c'est Le darwinisme aujourd'hui. Alors, c'est un livre qui est en fait un recueil d'émissions radiophoniques, donc retranscrit sur le papier, qui date, alors c'est une série d'émissions, d'une dizaine d'émissions, qui date de 69, je crois. 79. En tout cas, l'édition. Ouais, donc ça date. Alors donc, il y a le présentateur de l'émission, j'ai oublié son nom. Et des savants. Et une dizaine de savants. Alors ça va de... Alors j'ai oublié, mais enfin bon, il y a des savants dans tous les domaines. Je vais peut-être retrouver en regardant. Alors, c'est Émile Noël en tout cas qui anime l'émission. Alors, bon, il faut savoir que vu le sujet, c'est peut-être c'est peut-être très vieux en fait que j'ai lu. Et donc, l'idéal, ce serait vraiment d'avoir la même chose d'aujourd'hui. Mais bon, 30 ans, ouais, 30 ans ou 25 ans, on va dire, dans le domaine, c'est quelque chose d'assez important. Alors, la question est de savoir, en gros, si le darwinisme est encore bon, si la théorie de Darwin est encore valable aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vais redire quelques notes que j'ai écrites lorsque j'ai lu le livre. Alors, tout d'abord, en fait, il faut distinguer Lamarck et Darwin, ce qui n'est pas si facile. Mais Darwin s'inscrit dans un mouvement. Il n'était pas le premier à être évolutionniste. Alors. Tout d'abord, justement, Lamarck. Il a fait ça en. Cette théorie, il l'a écrite en 1800. Et on parle d'ailleurs du transformisme de Lamarck. Alors, pour Lamarck, les espèces évoluent et se transforment sous la pression des contraintes extérieures. Il y a donc deux forces qui conditionnent ces transformations. D'une part, la complexification naturelle des formes de vie et d'autre part les contraintes extérieures, donc l'environnement. Voilà les deux forces qui conditionnent la transformation. Les conséquences de cette théorie, une des conséquences, enfin, pas si directe en fait, c'est que Lamarck pensait qu'il y avait hérédité des caractères de l'acquis, des caractères acquis. Donc là, c'est un peu... Qu'est-ce que l'acquis? Bref. Est-ce que... Bon, enfin, est-ce que la girafe a un cou qui grandit au cours de sa vie? Bon, une connaissance, à la limite, pourrait être acquise. Alors de là, à la transmettre génétiquement. Bref. Alors, ensuite Darwin, donc c'est sa théorie de l'évolution. Mais en fait, on connaît plus les idées néo-darwiniennes que le darwinisme lui-même. Parce que il a repris beaucoup de choses de Lamarck. Beaucoup ont dit que c'était un lamarckien, Darwin. Il a repris beaucoup de choses, dont justement une qui est fausse, c'est l'idée de l'hérédité des caractères acquis. Donc voilà. Bon, il a aussi retenu la complexification croissante des espèces. Ce qui est pas forcément faux. Mais il a ajouté, lui, la sélection naturelle. Alors. Mais alors, Darwin pense surtout à des variations légères qui s'accumulent. Et moins à de grosses mutations. C'est-à-dire que pour lui, y en a, mais elles sont peu nombreuses, elles interviennent moins dans les processus. mais il ne connaît pas encore la génétique. Et notamment les lois de Mendel, qui sont ju tout juste antérieures d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Je crois que Darwin, c'est le milieu du 19e, plus la date, j'ai pas noté, j'aurais dû. Mais voilà, il aurait pu s'inspirer de ce qu'avait découvert Mendel, mais il ne l'a pas découvert tout de suite. D'ailleurs, Mendel, en général, n'a pas été exploité tout de suite. En gros, je crois que c'est surtout une cinquantaine d'années plus tard que son travail a vraiment été utilisé. Alors, pour Darwin, la variation peut être le fruit de contraintes de l'environnement, climat, nourriture, milieu. Il croit à l'hérédité des caractères acquis, bon ça je l'ai déjà dit, donc il est sur ce point lamarckien. Là je vais parler du darwinisme social. Alors ça c'est quelque chose qui est pas très glorieux, hein, on va dire, qui est plus de la fin du 19e, je crois. Donc c'est la théorie qui justifie l'ordre social déséquilibré. Ça c'est peut-être un peu mon. Non, c'est peut-être aussi sa vision des choses. Donc, il justifie l'ordre social déséquilibré comme une conséquence de la lutte pour la vie. Donc, pour le bien de l'espèce, il faut louer les forts et ne pas aider les faibles. Voilà, c'est la sélection. En gros, faut pas contrecarrer ce que la nature a voulu, puisqu'elle le fait pour le bien de l'espèce. Donc les pauvres sont pauvres, c'est qu'ils le méritent, et il faut les laisser pauvres. Certains propos de Darwin vont très loin et peuvent conduire à de telles idées. L'eugénisme en est la conséquence, notamment dans les pays du Nord, ces pays scandinaves. C'est une conséquence du darwinisme social. Donc l'origine des espèces par voie de sélection naturelle, ça c'est l'œuvre de Darwin de 1859. Aujourd'hui, le néo-darwinisme, en fait, c'est une autre, on appelle plus le nom de la théorie, c'est la théorie synthétique de l'évolution, TSE. Et alors, la TSE et la paléontologie. Alors, la plupart des chercheurs utilisent la théorie synthétique de l'évolution dans leurs travaux. Pourtant, au niveau de la macroévolution, beaucoup de phénomènes observés ne trouvent pas d'explication. Notamment, je crois, la création des espèces, où il y a des doutes. Voilà. La paléontologie ne donne pas de description sur l'apparition des grands genres avant 600 millions d'années. Alors, la paléontologie humaine et le darwinisme. Alors, l'homme est un primate. Donc là, c'est plus une connaissance sur l'origine de l'homme. Le stade de la bipédie qu'il différencie, ou plutôt sa branche des autres primates. Mais au moment où la branche de l'homme apparaît, on n'a pas encore des hommes, on a des pré-hommes. Alors, certains se sont demandé si la fabrication d'outils, avec les silex, peut permettre de qualifier l'homme. A priori, non. Car des australopithèques en ont probablement fait, alors que ce ne sont pas encore des hommes. Voilà. Alors, la bipédie a engendré la libération des mains. Et donc le travail des mains, et donc la stimulation du cerveau, etc. Et là, une interaction, une boucle de rétroaction, c'est-à-dire les mains sont libérées, le cerveau se développe parce que les mains sont actives, le cerveau se développant, les mains ont été utilisées de plus en plus, et ainsi de suite. Le langage, on ne sait pas, et pour cause, on ne va pas retrouver des fossiles de langage. Alors, le genre Homo, donc les premiers hommes, est né il y a 1 à 2 millions d'années. La séparation d'avec les lignées des autres grands singes, il y a environ 5 millions d'années. Donc, c'est-à-dire que sur notre branche, il a fallu 3 millions d'années, 3 à 4 millions d'années environ avant qu'on puisse qualifier d'homme les primates. C'était dans l'ère tertiaire. Alors, la branche des hommes a divergé dans l'ère tertiaire, la période miocène. Alors, on pense qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y a eu qu'un seul lieu de naissance pour le genre Homo, en Afrique orientale ou en Asie du Sud. On n'est pas sûr, mais on pense qu'il n'y en a eu qu'un. Pour l'Homo sapiens, plusieurs naissances possibles. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un point de naissance pour l'homme, mais qu'ensuite il s'est répandu et que l'Homo sapiens serait apparu à plusieurs endroits. Ce serait une apparition polycentrique. Ensuite, j'ai moins pris de notes, j'étais moins intéressé par la suite, c'était assez flou en fait. J'ai compris qu'il y avait des spécialistes qui étaient persuadés que, enfin, même ceux qui pensent que le néo-darwinisme est encore à tout son sens sont quand même nuancés, parce qu'ils répondent pas à tout. Mais globalement, les bases sont là. On pense juste qu'il pour eux, il faut juste affiner le modèle, ce qui se fera petit à petit pour avoir les dernières réponses. Pour d'autres, non, ça ne va pas. Le néo-darwinisme n'est pas bon. Pourquoi? Alors moi, j'ai pas compris pourquoi justement. Et c'est là que je pense que c'est mal exprimé. Ou alors je suis bête, c'est toujours pareil. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit, donc j'en ai déduit qu'il était bête. En fait, la question c'est que ils disent qu'on peut pas imaginer que des petites mutations sélectionnées suffisent à expliquer une évolution qui a des tendances lourdes. Une espèce qui a des tendances comme ça, dans un sens donné, pendant une longue période, on a du mal à croire. On a du mal à croire que ça vient de mutations, on va dire, ou d'évolutions petites, des petites mutations aléatoires et ensuite sélectionnées. Alors pour ces gens-là, il y a plutôt. Les mutations elles-mêmes sont orientées. Alors orientées comment? C'est pas dit, justement, et c'est ça qui est embêtant. Alors d'une part, on ne dit pas pourquoi qu'elles sont. Ils définissent pas exactement ce qu'est une mutation orientée. Enfin, pourquoi et orientée par quoi? On n'en parle pas non plus. Peut-être qu'il y a une pudeur en 79 de parler de Dieu. Eh oui, parce que là, on n'est plus très loin du dessin intelligent. C'est-à-dire que les choses changent, mais il y a quelque chose qui guide derrière. Alors, est-ce que ce sont des scientifiques encore honnête, qui ne mélange pas tout et qui parle uniquement qui n'ont pas une vision ethnocentrique. Non, c'est pas le terme, pas ethnocentrique, mais bref. Est-ce qu'ils pensent ça sur toutes les espèces, etc. Ou est-ce que c'est une façon de cacher le fait que on pense que tout ça c'est tellement beau qu'il y a forcément Dieu qui choisit les choses à retenir. Bref, on ne sait pas. Voilà en tout cas les bases un peu du contexte. Donc moi je suis un peu frustré là parce que je n'ai pas bien compris non plus pourquoi une sélection de mutations aléatoires, dès lors qu'il y a une contrainte environnementale, ne conduirait pas à l'apparition d'une forme de tendance. Si par exemple, je sais pas, le cou des girafes grandit, il n'a pas grandi tout à coup de 5 mètres. Il a fallu sans doute de nombreuses, nombreuses sélections. Bon. Donc, celui qui dit que Darwin est mauvais, il peut dire très bien, bah oui, voilà, on voit bien qu'il y avait une tendance à l'augmentation du cou de la girafe. C'est quand même, c'est pas, c'est ce qui ne peut pas s'expliquer par le hasard. Alors que moi, vu de ma connaissance, je me dis bah pourquoi pas, si une girafe a un cou légèrement plus haut qu'une autre, elle attrapera quelques feuilles en plus et survivra. Donc, que ce phénomène dure à cause de tout simplement la taille des arbres ou je ne sais quoi encore, il n'y a rien de choquant dans ce principe. Donc, bon, moi je ne comprends pas. Bon. Enfin, voilà. Donc, d'ailleurs, contrairement à l'émission d'Arte sur le créationnisme, on ne parle pas de Dieu. Il est en filigrane par endroit, mais par toute petite touche, et plutôt par les darwiniens qui accusent les anti-darwiniens, enfin, d'avoir peut-être des arrière-pensées religieuses. Mais le débat n'est pas du tout ouvert là-dessus, ce qui est intéressant, parce que là, il y a quasiment il y a une approche, une donnée intéressante sur le plan épistémologique. C'est l'apparition d'une forme d'irrationnel dans le domaine, bon, je sais pas. Et donc, forcément, au début, elle arrive un peu à mots cachés, etc. Et au bout de 30 ans, on a des écoles où on enseigne aux enfants que les espèces sont arrivées telles quelles il y a 5000 ans. Bon, je ne sais pas si ça s'est fait de façon un peu graduelle, si les attaquants de Darwin il y a 30 ans avaient déjà en tête ça, sans pouvoir le dire aussi franchement. Je ne sais pas. Là, je crois pas que c'était tout à fait le cas, parce que c'était vraiment des scientifiques d'un bon niveau, a priori, dans le livre. Voilà, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Bon, une petite notion, mais une vieille théorie qui a, bon, du coup, une trentaine d'années, la sociobiologie. C'est de penser que l'homme, étant un amas de... Enfin, en gros, l'individu, on va dire, qui subit la sélection naturelle ne serait pas l'homme, par exemple, ou un autre animal, mais des gènes. Et les gènes utiliseraient l'homme comme outil, c'est un ensemble de gènes. Voilà, bon, c'est une théorie un peu étrange, mais surtout le problème, c'est que avec cette théorie, on a l'homme au service de la du gène. Et là aussi, les sociobiologistes veulent expliquer tout phénomène sociologique par ce biais. Alors, sur certains points, ça donne des choses intéressantes, du genre, je sais pas, le sacrifice que des parents peuvent faire pour leurs enfants s'explique parce que, d'un point de vue génétique, les gènes se sont transmis aux enfants, ils n'ont plus d'intérêt à... vraiment, ils ont vocation à aider les gènes des enfants à survivre. Et donc, ça explique l'instinct de sacrifice. Bon, c'est des choses de ce type-là qui sont intéressantes. Mais il n'y a pas forcément besoin de gènes pour ça, d'une part. Et d'autre part, le problème, c'est plus qu'ils ont été beaucoup plus loin que ça. Ils voudraient expliquer tout phénomène sociologique dans la société moderne, une société, par leur théorie. Et du coup, on se retrouve un peu comme dans le néo-darwinisme, ou plutôt dans le darwinisme social, à avoir un monde justifié par cette théorie, et justifié au sens fort, c'est-à-dire qu'on a un ordre juste. C'est un ordre qui est celui qui était prédestiné, ou du moins... La nature, ce qu'elle a fait pour de bonnes raisons. Donc tout est juste. Donc, comme par hasard, les sociobiologistes étaient. Alors, intéressant quand même, ils étaient anti-religieux, je crois. Anticommunistes. Enfin, ils avaient fait leur propre religion, quoi. Donc, ils avaient vocation, ces gens-là, bizarrement, ils avaient des prétentions pour diriger la société tout entière, avec leur théorie. Bon, c'est ceux qui savent qui dirigent. Il y a des relents d'utopie positiviste, quasiment. Bon. Voilà, ça c'était un des derniers points du livre qui m'a un peu surpris et puis qui est encore frais dans ma mémoire. Voilà. Bon, c'était un livre intéressant, un peu un témoignage. Alors l'idéal, ce serait d'avoir la même vision aujourd'hui. Je pourrais peut-être l'enseigner d'ailleurs, mais bon, pas que ça à lire, hein. Voilà. Donc un bon livre, sympa, bon, pas non plus transcendant, mais bon, toujours un beau témoignage. Et c'était encore France Culture, il y a, voilà, il y a une trentaine d'années. Intéressant.